Soyez les bienvenus avec Leïla Kadour-Moudadi.
Bonjour à tous.
Frédéric Siglis.
Bonjour à tous.
Daniel Lamora.
Bonjour à tous.
Albert Algou.
Bonjour à tous.
Alors, Mac Clavier. Et nos invités sont Annie Dupéré et Bernard Lecoq.
Non.
Ravi de vous accueillir tous les deux, cette famille formidable qui vient à notre micro. Avant de commencer, j'aimerais que le père Albert soit sûr des raisons pour lesquelles nous avons invité Annie Dupéré et Bernard Lecoq.
Sûr et bien sûr.
Ah bon?
Non, Guy. Oui. Parce que les deux acteurs fétiches d'Une famille formidable, série au succès formidable, qui compte jusqu'à 11 millions de téléspectateurs, chiffre formidable, sont des comédiens formidables. Et ça, Nangui, je ne doute pas que vous saurez le leur dire avec une chaleur qui n'a d'égal que votre sincérité formidable, comme chaque fois que nous recevons des comédiens, c'est-à-dire tous les jours. Mais, c'est vrai. Mais voyez-vous, Nangui.
Ça dépend des périodes.
Alors, à ce moment-là,
on a eu une période de chanteur, une sacrée période comédien.
Mais voyez-vous, non, mais c'est pas un reproche. Hein.
Mais ça reste des gens talentueux.
Les raisons, s'il vous plaît. Les raisons du grand contentement que j'éprouve à recevoir Annie Dupéré. Bonjour Annie.
Bonjour.
Et Bernard Lecoq. Bonjour Bernard.
Bonjour.
C'est parce qu'ils incarnent Catherine et Jacques Beaumont, un couple à la solidité exemplaire, qui a su durer malgré les nombreuses tentations charnelles qui ne manquèrent pas de les assaillir depuis un quart de siècle. Je me souviens du premier épisode, en 1992, intitulé « Les parents disjoncts ». Déjà, il s'agissait d'un homme et d'une femme unis par les liens indissolubles du mariage, institution dont le but ne doit être que la procréation qui se prépare, je rappelle, toute lumière éteinte sous les draps, à position du missionnaire, par des échancrures ménagées dans la chemise des nuits à la hauteur des parties honteuses de l'homme et de la boîte à ouvrage de la femelle.
Alors, ça, on a presque respecté, on a toujours fait l'amour en col roulé.
C'est très bien.
Nous avons une plainte.
Le col roulé, ça me connaît.
Col roulé. Non.
Alors, si. Depuis 24 ans que Dieu fait, dans ma camionnette multifonction bâchée cuir clouté noir, vous savez où elle est garée, qui fait aussi salle de projection, chaque fois qu'en compagnie de mes jeunes en recherche, je regarde Une famille formidable, je chauffe ces jeunes en leur faisant scanter à pleine voix « Un papa, une maman, un papa, une maman ». Car dans le fond, n'est-ce pas là le message que véhicule ce formidable feuilleton? Ceci dit, comme Nangui me le faisait remarquer tout à l'heure, vous savez, Père Albert, j'ai beau avoir les idées larges, il y a quand même une chose qui me gêne dans Une famille formidable. C'est cette complaisante répugnante envers l'homosexualité. Bien sûr, je ne dirai pas à l'antenne, mais franchement, ça me dégoûte. Alors, pour une fois que je suis d'accord avec Nangui, il est vrai qu'à une heure de grande écoute, il est scandaleux qu'aient été étalés les amours contre nature de Nicolas, votre fils aîné dans la série, Catherine et Jacques, je veux dire Annie Dupéré et Bernard Lecoq. En effet, Nicolas, après avoir perdu sa virginité avec une cougar femme d'affaires, une boule de vis, reine grenier, s'est lancé dans une liaison amoureuse avec un certain Patrick, puis avec Lucas, un homme marié, père de deux enfants, non sans avoir fait don de son sperme à deux voisines lesbiennes en mal d'enfants qui ont mis au monde un petit Louis qui se retrouve donc sans papa, mais avec deux mamans. Sans papa, deux mamans. Sans papa, deux mamans. Voilà. J'espère que la nouvelle saison va rectifier le tir. Et je vous laisse à présent avec Nangui, qui malgré cela vous trouve formidable.
Oui, merci.
La bande originale, Nangui, sur France Inter.
Pour une fois, tout est dit, Père Albert, parce que quand vous dites que le tir va être rectifié et que j'ai rajouté pas vraiment, on s'est rendu compte déjà dans les premiers épisodes, deux premiers, qui ont été diffusés la semaine dernière avec plus de 5 millions et demi de spectateurs, que vous n'êtes pas fait pour être dans la raison, on va dire quoi
conformiste.
Voilà, conformiste. Au contraire, c'est une ouverture d'esprit. C'est ça, la force de cette famille formidable. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est que c'est devenu une expression maintenant. Une famille formidable.
Formidable, déjà, c'est un mot qui
se pratique. Qui est courant quand même dans le dictionnaire.
Non, mais j'entends bien. Mais il m'arrive régulièrement d'avoir, par exemple, dans les émissions de jeux, des candidats qui, voulant m'expliquer qu'ils se sont reconstitués comme ça avec les enfants de leur épouse, leurs propres enfants,
malin, disent. Ah oui, on est une sorte de famille formidable.
On est une famille formidable.
Ah oui,
ce qui devient un mot-clé pour comprendre
que ça roule.
Tout va bien.
La vie ouverte.
La force, on va pas analyser spécialement le secret de fabrication de cette série, si ce n'est que ce sont toujours les mêmes qui bossent depuis le début.
Oui, bien sûr.
Série qui est née d'une idée de Pascal Brugnaud avec Daniel Thompson.
Voilà, c'est ça. Absolument. C'est ça. Et puis Joël Santoni, après, a repris la relève et est devenu, disons, vraiment le père en chef de cette série. Et puis, comme on s'était trouvé en complicité, en amitié et tout, d'ailleurs, au départ, c'était pas fait pour continuer. Hein. Je crois que on a suggéré.
Ça fait quoi,
nous,
13 ans maintenant
25 ?
Il y a eu 13 saisons,
mais ça, par exemple, on s'est arrêté 4 ans.
On faisait tous les 2-3 ans auparavant.
C'était une, puis on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on s'entend bien? On n'aime pas les suites. À l'époque, on appelait ça des suites. On dit, on n'aime pas faire des suites. Mais là, on aurait bien continué.
C'est bien réussi, Annie, quand vous dites un truc, ben moi, quand vous dites quelque chose, vous y tenez.
Et puis après, voilà.
Et votre petite allusion aux scènes d'amour?
Non, mais je rigole.
Non, vous rigolez qu'à moitié.
Non, vous l'avez.
C'est pas tellement marrant.
Non,
il n'y a plus droit.
C'est moche. Très agréable, parce que Joël est très pudique. Joël Santoni est très, très pudique. Donc, c'est vrai, c'est une chose qui me faisait toujours rire, d'ailleurs. Les scènes d'amour, de sexe, disons, rares
ça y allait,
que nous
coco.
Avons eues.
On était toujours
jusque-là, c'est des gens qui dorment carrément.
On n'a plus la santé, non.
Complètement habillés, c'est chouette.
Mais c'est très excitant.
Oui, c'est le moment où.
On a réveillé les sens.
Bernard, quand Bernard Lecoq garde son pyjama et qu'il en retire ses lunettes en disant
mais c'est bien.
Maintenant le bisou, là,
on sent que ça va partir.
C'est ça. Ouais, on sent que, comme je dis, la guinguette a fermé ses volets. Madame a été servie, on peut débarrasser. Et on a rangé les outils au grenier.
Waouh, les choses sont dites. Et il y a des purs moments d'émotion aussi, c'est-à-dire que. Aucun sujet n'est éludé.
C'est pour ça que les gens, quelquefois, nous disent est-ce que vous vous lassez ? On n'a pas à se lasser. C'est vrai que là, on a fait c'est vrai que c'est dans cette série que j'ai fait des plus belles scènes d'émotion qu'on a eues, quoi, que j'ai eues, que genre on aurait pu avoir dans n'importe quel autre film, si tu veux. Donc, c'est pas un truc où on se dit, on est comique à tout prix, on est coincé dans un ton. On n'est pas coincé dans un ton, parce qu'il y a tous les tons là-dedans. Tu vois.
Mais là, Nagui, tu disais avec son temps, et c'est même précurseur, puisqu'il n'y avait pas beaucoup de séries, même je crois qu'il y avait évoqué l'homosexualité, la drogue, aussi, de façon assez dure.
De façon assez dure, oui, il y avait une overdose dans les premiers. Hein, dans
Non, c'est ce qui était très audacieux.
Oui. C'est vrai que c'était toujours le propos, c'était la tolérance. La tolérance est gardée... son esprit d'enfance. Alors, je vais encore reciter les deux plus belles répliques de Joël Santoni, à mon avis. Vas-y. Un jour, on avait fait des conneries, je lui disais, il me disait, on va peut-être enfin devenir adulte et raisonnable. Et je disais, quelle horreur, on peut pas faire ça aux enfants. Réfléchissez, ça va très loin. On peut pas montrer aux enfants qu'on abandonne sa part d'enfance. C'est pas un bon exemple. Je trouvais ça génial. Mais c'est tout à fait ça, en fait.
Mais d'évoquer divorce et un couple, une famille qui se forme comme ça, d'évoquer l'homosexualité, d'évoquer la maladie, d'évoquer
oui,
même
eu dans, un cancer
dans,
aussi,
dans, dans les premiers voilà dans les premiers épisodes le food truck, c'est tout ça pour vous, c'est vivre avec le temps. Je mets volontairement sur le même niveau
la maladie, le
cancer.
Truck,
oui, parce que je veux dire, ce sont des sujets donc on n'évoquait pas spécialement dans.
C'est vrai que c'était tabou le food truck.
Dans les.
Encore dans certaines familles, on
c'était gênant d'en parler. J'ai été choqué à la 93 parce que
gaffe, on peut pas servir n'importe quoi.
François Fillon, il a refusé de mettre ça dans son programme. Il n'aborderait pas le problème du food truck.
Regarde, Roland est obligé de partir. Hein. C'est le food truck.
Donc d'un côté, vivre avec son temps, de l'autre côté, aborder des sujets qui ne sont pas forcément ceux qu'on a envie de voir lorsqu'on mange à table, en regardant son feuilleton.
Les sujets sont compensés par voilà. C'était un petit peu dans l'épisode où j'avais un cancer, c'était ça en fait le ressort, c'est que nous on vivait des choses dramatiques, comme on voulait pas le dire aux enfants pour les angoisser, eux ils continuaient leur connerie tranquille, et donc il y avait cette espèce de décalage comme ça.
Non, et ce qui est fort c'est de garder, c'est comme une troupe.
C'est exactement ça, c'est une troupe, à vrai dire.
Oui, c'est une troupe, on y a souvent pensé.
Est venu dans tout ça, mais le départ c'était que Joël a vraiment le don pour choisir des gens qui peuvent s'entendre et se coller comme ça ensemble bien, et on s'amuse tout le temps à se retrouver, et puis ce qui fait que Je pense que c'est une des clés de l'affaire, quoi. Si on s'était pas bien entendu, on aurait carrément arrêté, parce que à l'époque on avait encore la possibilité. Maintenant, on est en fin de course.
Et vous écrivez, vous participez à l'élaboration.
Au début, pas mal. Oui, je m'amusais à écrire des scènes au maquillage, proposais à Joël, hop, on les faisait, ou je disais tiens, j'ai une idée là. Mais comme ça, quoi, pour nous. Et puis moi, maintenant beaucoup moins. Joël écrit, il y a scénaristes, parce qu'on en fait tous les ans, donc c'est vrai que c'est faux.
Oui, il faut dire que Joël écrit et réalise. Pas tous les épisodes, parce qu'il y a Miguel Courtois aussi qui réalise.
Voilà, maintenant, est arrivé dans l'affaire, donc
pour l'aider un peu, parce que c'est soulager,
parce que c'est quand même du boulot, ça paraît pas.
Est-ce que justement, c'est un rythme de travail qui est le rythme de la télévision, vous avez encore le confort d'être dans un rythme qui serait entre le cinéma et la télé? Avez-vous plus de temps par journée?
On n'a pas plus de temps, mais on a la chance d'avoir deux metteurs en scène qui tournent vite et qui aiment tourner vite, donc nous on aime tourner vite aussi, enfin quand on participe.
Moi j'ai gardé la devise de Jean-Louis Barrault que j'adorais, qui était heureux, écoute, je t'en prie, mal mais vite. Quand il y avait un acteur qui se prenait la tête dans les coins comme ça, écoute, allez, mal mais vite, hein.
et c'est un épisode, ça représente combien de temps de travail de tournage?
C'est 22-23 jours de tournage en général pour faire un épisode, ce qui est assez court par rapport au cinéma où on tourne en général en 45-50 jours minimum. Mais c'est vrai que quand on fait des petites incursions au cinématographe de temps en temps avec Annie, on a l'impression qu'on pourrait aller beaucoup, beaucoup plus vite. On fait beaucoup plus de prises, on prend vraiment plus de temps à préparer les choses, alors que nous, on aime bien comme ça entrer, on aime bien bracler, quoi.
Non, mais c'est un plaisir à faire les choses. Pour aller plus loin, est-ce que les imperfections de la vie, est-ce que si vous butez sur un mot, est-ce que si il y a un picotement dans l'œil qui fait que vous avez un geste différent, vous voulez le garder?
Joël est très friand des petits accidents. D'ailleurs, quand on prépare une scène, il aime bien mettre tout ça en place, organiser un peu l'espace en disant, toi tu te colles là, toi tu fais ça, la caméra va là et là. On répète une fois, deux fois, c'est très très très...
On se concentre beaucoup en fait.
Oui, on se concentre avant, mais une fois...
Tu vois, c'est tout à fait ça.
Il se lance beaucoup.
Il y a des scènes, on a fait des scènes...
Il se lance dans le truc des moteurs.
Des grandes scènes entre nous notamment où les scènes d'émotion et les choses comme ça, on y va une fois, quoi. On adore les one shot parce que on s'y prépare comme au théâtre, tu vois, c'est-à-dire qu'on a bien répété notre truc, et on y va. Et si c'est bon, je refais pas, Joël. Il refait pas.
Et c'est pas la fameuse phrase, elle est bonne, mais on en refait quand même une autre.
Voilà, ça sert à rien. Si elle est bien, elle est bien, cette
troupe, tous les rôles dans la famille, je le dis avec beaucoup de respect, que l'on pourrait qualifier de petits rôles par rapport à vous,
Mais voilà. Il y a 12 acteurs, au moins actrices principaux dans l'aventure. Alors après, selon les épisodes, selon les saisons, il y a des personnages qui sont plus mis en valeur que d'autres. C'est difficile de raconter quand même 12 histoires comme ça qui impliquent tout le monde. À chaque fois, alors c'est épatant parce qu'effectivement, on voit des relations entre les personnages qui sont densifiées. Enfin, je vois par exemple avec Alexandre Thibault, on a une relation vraiment qui est marrante, quoi. On arrive vraiment à trouver des choses un peu rigolotes. Et Joël est assez friand de ça quand on trouve une petite râlerie à rajouter. Il est content. Puis nous aussi.
Ce soir, il y a donc deux nouveaux épisodes puisque c'est la nouveauté de cette saison aussi, c'est que ça passe en 2x52 minutes. Sur TF1 le lundi et ce soir, donc les deux derniers. Je vous propose d'éteindre votre portable, monsieur, ou alors directement.
Il est devenu avec son autoradio là.
L'autre possibilité étant de décrocher. Ah, vous avez même un texto qui arrive. Donc les deux derniers passent ce soir. C'est une famille formidable et vos oreilles ont sifflé, Leïla, quand on vous a annoncé la venue d'Annie Dupéré et Bernard Lecoq.
Absolument et immédiatement, Annie Dupéré. Quand je pense à vous, je pense à une femme, un auteur, une auteure plutôt, d'un autre temps qui partageait avec vous l'amour des chats.
C'est un lointain souvenir, un très lointain souvenir. Chaque fois que je rencontrais Claude Debussy, c'était dans la chaleur sonore, dans la fièvre légère d'une atmosphère exclusivement musicale. Je revois un compositeur au piano, un chanteur appuyé des deux coudes sur le piano nu.
Marisol Touraine.
C'est Colette.
Il s'agit de Colette.
On l'appelle Colette.
Ah oui, d'accord. Il s'agit donc de Colette, évoquant sa rencontre avec Debussy.
Oui, oui.
Et je sais que vous êtes une amoureuse des animaux, hein, en
oui,
général.
Oui, oui.
Les
alors,
chats,
pas amoureuse. Je les aime. Justement, c'est drôle parce que ce livre, là, Les chats de hasard, que j'avais écrit, oui. J'avais vraiment très sciemment commencé par une phrase qui disait j'ai pour les animaux un amour raisonnable. Et ensuite, on ne m'a pas arrêté de me dire que j'étais folle des bêtes. C'était. Non, mais c'est vrai que je les aime bien. J'ai commencé à dire c'est vrai qu'il y a des cons partout, quoi, chez les chats aussi. Donc, je ne suis pas gâteuse. J'en ai connu des chats très cons. Et des êtres exceptionnels.
Il y en a certains
c'est comme
de
chez les humains. Il y en a des biens, il y en a comme ça. Et puis, voilà, il y a de tout, quoi. Donc, mais, je suis.
Moi, je retourne cette phrase. La phrase de la journée. J'en ai connu des chats très cons. Je pense que ça va faire ma journée. Ça va faire ma journée.
Ça pourrait même être à titre d'émission.
Ouais.
J'en ai connu des chats très cons. Et on reçoit aujourd'hui.
Sur une année présidentielle comme celle qu'on est en train de vivre, je pense que ça va tout va basculer là-dessus.
Mais en tout cas, il y a un parallèle entre vous et Colette, parce que c'est vrai que Colette, on la représente toujours se mettant au travail avec, à proximité d'un chat. Je crois que vous écrivez aussi souvent dans ces conditions. Vous écriviez.
Faut une vocation. Tous les chats ne sont pas des chats d'écrivains. C'est très rare.
Alors justement, comment est-ce qu'on détermine.
On s'en fout. Moi, j'en ai trois, il y en a deux qui s'en foutent complètement.
C'est quoi un chat d'écrivain?
Alors c'est quoi un chat d'écrivain?
C'est un chat qui joue pas avec le stylo, c'est un chat qui se met à côté de la page, qui est là et qui regarde ce que vous faites, qui garde le cahier, qui est là dans l'escalier avant vous quand vous allez travailler.
Et qui écrit aussi quand on est en panne d'inspiration.
C'est très curieux. Il y en a, mais c'est pas souvent les autres sont malades, quoi. Ben voilà, elle me fait parler, puis elle, vous êtes là, vous vous foutez de moi.
Ouais, non, mais pas du tout, elle est susceptible.
Ce que j'aime, c'est que Bernard Lecoq, dans la vie, a... Bon, enfin bref.
Oui, charrie. Non,
mais moi, je suis fan. Voilà, je suis totalement fan. Oui, totalement fan des vannes de Bernard. Tout va bien.
Eh bien, Bernard, justement, quand je pense à vous,
attaquez-le.
À un film merveilleux, vous étiez tout jeune, les cheveux longs, un joli carré. Et vous étiez embarqué à bord de la voiture de Samy Frey à toute vitesse pour distancier Yves Montand, qui avait à ses côtés Romy Schneider.
Ça va.
Rien.
Le type s'est amené au milieu de la route. Alors je me suis dit, si je me rabats, c'est les mômes qui vont dans le décor. Alors, petit coup de barre à gauche, petit dérapage contrôlé, le talus, et hop, ici la sortie. Mais il faut être très fort pour faire ça, hein, parce qu'un peu plus, le cocoté là, blap.
La mauvaise foi d'Yves Montand dans César et Rosalie.
C'est pas Nagui, moi.
Ce qui limite vraiment Yves Montand.
Mais vous me flattez. Oh, et.
Oui, c'est vrai. Ah,
c'est comme ça, là.
C'est incroyable. Qu'est-ce qu'il est bon.
Il a tous les talents. Il a tous les choix.
Non, mais je croyais que vous vous foutez de ma mauvaise foi.
Aussi.
Je sais pas si ce qu'il va faire, c'est Yves Montand ou le beurre qu'ils font.
Moi, c'est Yves Montand, je crois, vraiment, définitivement. Et donc, César et Rosalie de Claude Sauté, j'avoue, quand je me suis penchée sur votre filmographie, Bernard Lecoq, Piala, Tavernier, Chabrol, Haneke, Costa-Gavras, Lelouch, j'en oublie plein. Et avec vous, Annie, c'est pareil, Polak, René, Yves Robert, Philippe de Broca, à vous deux, vous avez une filmographie
fou.
Oui, enfin, moi j'ai fait des petits rôles avec tous ces gens-là.
Hein.
Il a fallu que j'attende Joël Santoni pour faire un grand rôle. Mais Annie, elle a tourné dans des grands films avec des grands personnages.
Ouais. Toi, c'est vrai, ouais. Ça, c'est on n'est pas des Merlans du jour. Hein,
Non, mais on imagine que tous ces noms, tous ces grands cinéastes apportent une expérience aussi dans la manière de travailler, dans la manière d'appréhender son propre métier.
Oui. D'ailleurs, plus ils sont bons, plus ils sont simples. C'est ça qui est bien.
Et alors, par exemple, vous parleriez de qui plus il est bon, plus il est simple, ça serait qui?
Polak, j'avais adoré Sidney Polak. Mais vraiment adoré. Parce que d'abord, il a été acteur, il a été professeur d'art dramatique. Donc, il savait comment ça marche, un acteur. Donc, il n'avait pas besoin de... Et il disait une chose formidable, je suis un metteur en scène adulte, je n'ai aucun besoin de rapport de force. Voilà, donc on était de plein pied, on répétait un peu comme au théâtre, comment tu te sens là, tu aimerais mieux être debout. Et on faisait les scènes avant la technique. Comme ça, on répétait, tout le monde savait ce qu'il faisait. C'était vraiment formidable. Et d'ailleurs, j'avais raconté ça à Joël Santoni, j'avais dit, tu sais, il n'éclairait pas le décor. On venait, les acteurs, d'abord, on n'allait pas se maquiller, on allait répéter ce qu'on allait faire dans la journée, comment on se sentait bien. Comme ça, on répétait entre nous. Et puis après, il faisait rentrer les techniciens d'après ce qu'on avait fait. J'ai dit, c'était génial. Et Joël m'avait dit, on va faire pareil.
Et vous, Bernard Lecoq, un souvenir dans cette liste que j'ai citée tout à l'heure?
Oui, oui, non, mais par exemple, Chabrol ou Tavernier sont des gens, et Piala, curieusement, sont des gens qui abordent le travail d'une manière très, très simple, très directe. Piala en particulier, c'était tout à fait étrange parce que on pouvait arriver comme ça, et puis alors ça prenait un peu de temps à se mettre en place, il était un peu nerveux, hein, c'était quand même pas quelqu'un de très facile, mais tout à coup, il y avait de grandes scènes à tourner, et puis alors on attendait, mais il repérait tout, il repérait comment se mettaient les gens. Par exemple, là, chacun trouve une position, parce qu'il est confortable, on est au micro, on est en train de parler, alors il passe à côté, il fait « c'est bien, là, reste comme ça, c'est bien ». Alors tac, les gens étaient en train de discuter à côté.
En partant du naturel.
En partant comme ça. Ouais. Et à un moment, il disait « allez, on y va ». Et alors, en général, dans les films, on fait « bon, alors, attention, tout le monde se mobilise, attention, silence, vous êtes prêts, clap, action !»
Ça, c'est moqui.
C'est un bordel terrible. Alors que lui, il faisait « allons-y ». Et là, il faut être un peu sur le coup, quoi, parce que tu te fais violer. Qu'est-ce qui se passe? On commence à tourner. Ouais. Et j'imagine... Mais il essayait de laisser, au contraire, quelque chose de très doux et de très paisible pour que les gens entrent dans les situations.
Et c'était pas
situations.
Toujours la première prise, il était gardé. Donc là, je pense que le travail était différent par rapport à ce que vous
disiez. Ça pouvait l'être, simplement, comme disait Dutron, il était capable de faire la Joconde et puis le lendemain de lui rajouter des moustaches, quoi, parce qu'il pouvait faire une chose magnifique la veille, et voilà, et le lendemain arriver et dire c'était de la merde, il faut tout recommencer, on repartait dans tous les sens, et finalement il montait les premiers, ce qu'il avait fait la veille. Donc c'était des choses particulières, mais Tavernier, par exemple, qui a mis en scène des choses considérables, et par exemple dans Capitaine Conan, c'est enfin, sur des scènes de guerre, de bataille et tout ça, il fait ça avec une légèreté, une gentillesse et évidemment une compétence.
Donc pour vous aussi, comme dit Annie, c'est la simplicité qui fait...
Les gens compétents, si vous voulez, ils ne s'en mêlent pas les pieds, quoi. Ils savent ce qu'ils font.
À propos de la direction d'acteur, Joël Santoni, il adore citer, paraît-il, une chose que Hitchcock aurait dite à un journaliste qui parlait de ses films et des acteurs. Il disait, tel film était fort, mais l'acteur n'était pas très bon. Et Hitchcock fait, oh non. Et le journaliste fait, mais alors dites-moi, mais en tant que metteur en scène, quand même, vous n'avez pas pu l'aider ?» chacun son métier.
C'est pourtant vrai, on a déjà, on va pas dévoiler des noms, Leïla, tous les deux là maintenant, mais on a déjà pu remarquer que des comédiens peuvent être bons dans certaines situations et moins bons dans d'autres situations. On se dit, nous, voyant de l'extérieur, ça doit dépendre de la direction d'acteur. Est-ce que c'est le cas ou pas?
Ça peut dépendre aussi des rôles. On peut être plus à l'aise dans certains personnages, dans des situations
ou dans
d'autres.
Alors,
c'est variable, quoi.
Mais la direction, il fait pour beaucoup. Il
est
pour
beaucoup. Oui et non, parce que Marielle, par exemple, il dit, mais comme on dirige pas des acteurs, on n'est pas avec un
j'aime mieux
un
le terme
acteur,
accoucheur.
Comme ça, à la maison, ouais.
Carrément.
Oui, parce que c'est quelqu'un qui aide à faire, mais c'est vous qui le faites, quoi. Qui aide à accoucher de quelque chose, qui peut, c'est pas diriger, quoi. Les gens ont une drôle d'idée de dire, ah, tu fais ci, mais ça. Non, c'est pas ça, en fait.
Ça dépend aussi. Sage-femme, sage-comédien.
Ouais. Oui, sage-comédien, voilà.
Ça dépend du type d'actrice, d'acteur et des relations avec un metteur en scène. Il y a des gens qui ont besoin de beaucoup d'informations. Et alors, qui se sentent mal à l'aise si, tout à coup, le metteur en scène ne vient pas leur expliquer dans le détail pourquoi tel sentiment arrive et pourquoi on a fait ça. On donne un peu à béquer. Mais il y a des gens qui ont besoin de se nourrir beaucoup de ça, et puis d'autres, au contraire, qui préfèrent se lâcher. Et quand c'est une bonne entente avec un metteur en scène, ça se passe bien. Mais il y a aussi des metteurs en scène qui aiment bien donner la béquée, quoi. C'est donc,
et justement, dans César et Rosalie, avec Claude Sauté, une Romy Schneider ou un Yves Montand fonctionnaient de la même manière? Vous les avez vus sur quelques jours de tournage?
Oui, enfin, je les ai admirés surtout, mais je n'ai pas fréquenté très près. Je voyais plus Samy Fray parce qu'on était tout le temps un peu dans la bagnole. Mais à part ça, c'est vrai que, apparemment, Sauté était très, très. Enfin, il n'était pas directif là non plus, mais il était très passionné, quoi. Alors, je me souviens, je crois, Bernard Fresson, un jour, c'était dans Garçon, je crois, il devait entrer en scène à un moment. Alors, il y avait toute une scène comme ça, dans les grandes scènes de Sauté, avec il y avait la cuisine et tout le tintouin. Et alors, je crois que non, c'est Villeray qui devait entrer en scène. Et alors, il portait un plateau avec plein de trucs comme ça. Et alors, Sauté était sur le coup comme ça, il était très énervé, il disait moteur. Alors, la scène se passe. se passait, puis à un moment, il devait faire entrer Villeray, et hop, il le pousse. Et là, il se ramasse le museau avec ses trucs. Parce que dans l'enthousiasme, ça avait été un peu fort, le geste. Mais enfin, ça dénotait simplement
un désir,
et voilà, ouais, un tempérament de feu, c'était bien.
Ce soir sur TF1, c'est le dernier épisode de cette série, de cette saison 13, les deux derniers épisodes qui passeront ce soir sur TF1, et vous préparez déjà la saison 14, on en reparlera tout à l'heure parce que le tournage aura lieu début 2017. L'orchestre polyrythmo de Cotonou, ça s'appelle Madja Falao. Nos invités sont
Bernard.
Ouais, c'est bien. Nos invités sont j'allais commencer par Bernard Lecoq, je suis désolé. Annie Dupéré et Bernard Lecoq. Ouais, vous avez toujours l'habitude de passer après elle,
n'empêche pas. Ah moi je suis le prince consort de temps en temps, ouais, c'est elle, c'est ça.
Et à quel moment vous arrivez à sortir de votre costume de Bernard Lecoq pour rentrer dans celui de Beaumont? Est-ce que vous finissez pas par
si
vous mélanger les pinceaux?
Si ouais, ça se mélange un peu, ouais. Non, oui. Ça, ouais,
je dis toujours, c'est vrai que en fait, c'est le rythme, en fait, qui fait la comédie, en fait. Mais sinon, quand on joue comme ça, comme on le fait sur l'instantané, sur la spontanéité, on peut pas se prendre les pieds dans un personnage. On va pas se prendre les pieds dans une composition, quoi. Dire attends, Catherine, on s'en fout. On y va. Voilà.
C'est Catherine ou Annie qui va au food truck?
Bah c'est là, c'était Catherine, franchement.
C'est Catherine,
ah ouais, 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 d'accord. Ouais. Là, j'affirme, c'était Catherine.
Ah, mais tu l'as bien fait, le service, tu fais bien.
Hein. C'est bien.
Mais ouais. Non, mais si on veut qu'on a plus de boulot, on va s'y coller, on va acheter un camion, tu vas voir.
J'étais au bord des larmes quand il a brûlé. J'étais au bord des larmes.
Mais non, mais vous êtes trop sensible.
Scène d'émotion. Mais oui, allons,
et allons. Vous êtes vraiment à Lisbonne?
Oui.
Ah oui, mais tu vois la ville, tu vois les voitures.
Toujours, on sait jamais juste quelques scènes.
On fait pas ça sur des fonds verts, pas encore.
Non, pas encore.
Dans 13e saison, ils vont où ils veulent.
Je pense même que vous avez dû prendre du plaisir à être.
À faire brûler le foot. Non, j'aime trop les bagnoles, ça m'a fait de la peine aussi.
Alors, je sais pas si la communauté française est aussi dense à Lisbonne qu'on la voit dans la série, parce qu'il y a beaucoup de Français.
Fiscalement, c'est intéressant.
C'est vrai,
oui, franchement.
Il y en a beaucoup.
Mais non, mais c'est très très joli, c'est ce côté San Francisco.
On a eu des scènes qu'on faisait dans la rue comme ça, qui ont été coupées par des gens qui faisaient ouh, famille formidable.
Bon, on tournait l'été, alors il y a quand même pas mal de tourisme et tout ça, alors c'est vrai qu'on est un peu comme à la maison, quoi.
Ouais. Famille formidable, donc ce soir sur TF1, dans quelques instants, quelques secondes, la bande originale avec des dates que l'on a prises comme ça en commun dans les carrières d'Annie Dupéré et Bernard Lecoq et que l'on a mises en musique. Mais d'abord, voici l'humeur de Frédéric Sylvestre.
Bonjour Annie Dupéré.
Une semaine de Noël.
Ouais, mais bonjour Bernard Lecoq. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, on n'est pas loin de Noël. Vous êtes ici pour la 13e saison d'Une famille formidable?
Oui.
Bah oui.
13e saison.
Et alors?
On est d'accord qu'après 13 saisons à jouer au couple marié, on peut parler d'une deuxième vie.
Il y a un peu de ça. Vas-y, balance ton couplet sur ta double vie, première épouse.
Oui, c'est ça. Je suis première épouse pendant les tournages. Son épouse, on est épouse dans la vie depuis 40 ans.
D'accord.
Quel courage. Laisse le premier rôle pendant quelques mois.
Et ça, j'avoue, quand je vous écoute, ça me dépasse un peu. Parce que la vraie vie, c'est pas glamour. La vraie vie, c'est un dimanche de novembre sur le parking d'une zone commerciale à Longwy. La vraie vie, c'est François Fillon qui t'annonce que t'as pas assez cotisé. La vraie vie, c'est chiant. La vraie vie, c'est payer des factures, la taxe d'habitation, faire des courses, des lessives, gérer l'éducation des enfants, la crise d'adolescence du grand ou de la grande. Et vous, depuis des années, quand vous abandonnez la vraie vie pour faire votre métier d'acteur, un métier qui fait rêver, où on réalise ses rêves d'enfant en étant astronaute, cow-boy, gangster, eh ben vous, vous faites semblant de payer les factures, de faire des courses, des lessives, vous gérez l'éducation des enfants, la crise d'adolescence du grand. Mais il y a là une formidable mise en abîme de l'existence. 13 saisons d'une série. Vous vous rendez compte que pour un acteur de Game of Thrones ou de Walking Dead, ces séries où un personnage principal meurt tous les 3 épisodes, vous êtes une légende urbaine. Hein, vous êtes les Highlanders de la série télé. La seule famille qui peut vous concurrencer, c'est les Simpsons. Une chose est sûre, si on avait voulu faire la série avec ma famille, on tenait pas 13 saisons. 13 minutes à la limite. Au-delà de ça, c'était un massacre collectif. Parce que moi, j'ai une famille qui ressemble à une primaire socialiste. C'est-à-dire des tas de courants, des tas d'avis, pas d'accord avec l'autre. C'est par paresse qu'on les a classés dans la même famille. Hein. Du côté lorrain, mes oncles et tantes, ils s'entendent comme Christiane Taubira et Emmanuel Valls. Et du côté guadeloupéen, pour bien comprendre à qui on a affaire, il suffit juste de savoir que mon père est né en 1945 et que ma grand-mère l'a appelé, je vous le donne en mille, Adolphe.
Non.
Si, c'est vrai. Mon père s'appelle Adolphe.
Je te crois pas.
Si, si, c'est vrai. Tout est vrai. Je te demande pas.
Je te crois pas.
Allez, je pense que mon père devait s'imaginer être en Allemagne quand il est tombé amoureux d'une Lorraine.
Oh non.
Ah, si, si. Il y a des questions. J'ai eu la réponse avec le temps. Hein. Dans ma famille, d'ailleurs, on ne dit pas qu'il y a des cadavres dans le placard. On dit qu'on range ses slips au cimetière. Ah, c'est vrai. Noël approche et moi, je redoute ce moment comme la peste. Hein. Ah, ce moment merveilleux où je vais me retrouver cerné par ma famille qui va me demander « Alors Frédéric, en vrai, il est gentil, Nagui, hein ?» Et tu vois, j'ai vu Leïla à la télé, là, et Emiliane, hein ?» Et le pire, Emmanuel Barré, « Oh, qu'est-ce qu'il y va ? Pourquoi t'essaies pas d'être drôle comme lui ?» Et sinon, globalement, t'as fini par en vivre ?
T'as un métier ?
Comme chaque année, je vais me mettre à picoler pour oublier où je suis, et c'est à ce moment précis que je vais tomber sur ma belle-sœur, uber féministe, qui me déteste. À côté d'elle, les fémènes, c'est des amiches. Hein ? Tout ça parce qu'elle s'est mise dans la tête, et depuis longtemps, hein, que je suis une sorte de mélange entre un taliban et Landru. Parce qu'un jour, j'ai dû lui dire, alors que j'étais bourré, qu'elle me cassait les couilles un peu sévèrement. Et heureusement, on va bien manger. Et souvent, les gens se demandent pourquoi on mange beaucoup aux fêtes de fin d'année. Eh bien, c'est parce que c'est plus compliqué de s'envoyer des saloperies la bouche pleine. Non, vraiment, ma famille est tout, sauf une famille formidable. Et quand je regarde votre série, donc la famille formidable, et que je compare avec la mienne, je me dis toujours, qui a dit qu'en France, on savait pas faire de la science-fiction ?
France Inter, Nagui, la bande originale.
Et même pendant les fêtes, Frédéric Sigrist, vous êtes dans ce manuel de survie dans l'isoloir, toujours au Funambule à Montmartre. C'est rue des Saules pour ceux qui cherchent à Paris dans le 18e. Et on peut passer vous voir entre les deux fêtes.
Exactement.
Entre les deux.
Même pendant les fêtes, hein, je crois que je vais pas y aller,
pour,
je vais jouer.
Pour le consoler.
J'ai l'expression. La bande originale d'Annie Dupéré et de Bernard Lecoq, on a pris comme ça quelques années, peut-être en commun. Vous, Annie, la rencontre avec Jean-Louis Barrault, vous, Bernard, votre premier film. À ce moment-là, Bernard Lecoq, écoutez. She came in through the bathroom window. Merci d'avoir choisi un titre aussi court.
Il y a au moins 12 profs d'anglais qui viennent d'avoir une rupture d'année.
Daniel,
impeccable.
Morin,
il a bien descendu.
Daniel Morin est ma caution.
Non, c'est impeccable.
Tu veux trop augmenter, toi.
Joe Cocker. C'est moi qui décide.
Je pars de loin.
Joe Cocker.
C'est qu'un euro, c'est doublé. Hein.
C'est votre choix. Enfin, c'est ce que vous écoutiez dans les années 70.
Oui, enfin, j'écoutais ça. Un peu tout, oui. Et tout ça, mais c'est vrai que c'est un peu particulier, je vais vous faire chialer. Quand je tournais ce film, c'était un film d'Edouard Molinaro, mon père est mort. J'avais 20 piges, et alors j'étais en voiture, et j'allais chez ma frangine pour lui annoncer la bonne nouvelle, et il y avait ça à la radio. Donc c'était
quand même... Ah ouais, ça marche. Ah oui, n'oublie pas. Ouais.
Ah, c'est quand même pas. Joli, quoi.
C'est Michel Boiron, en fait, qui...
Au tout début, ouais, quand j'étais mouflé, ouais,
qui vous cherche et qui vous propose votre premier rôle.
Non, il m'a pas proposé un premier rôle. J'ai commencé avec Michel Boiron dans un film avec Renaud Verlet et Nathalie Delon. Ça s'appelait La leçon particulière.
Oui,
jouait le copain de... Voilà,
j'ai pas dit Renaud. Un premier rôle, votre.
Ah, bon, mon premier rôle, voilà.
Première apparition d'un puceau. Vous aviez
j'étais là, comme ça, et alors j'avais une scène, comme ça, avec une très jolie fille, et puis alors je savais pas trop comment j'allais m'y prendre, et il y avait une photo de Marlon Brando. Alors il disait, faut pas être timide, mon petit poulet. Je disais, c'est pour ça, c'est que j'ai un peu l'impression qu'on est trois.
Avec une fausse méfiance. ça, vous dites que ça a été un coup de bol énorme. Comment vous êtes retrouvé propulsé devant la caméra?
C'était un coup de bol parce que j'ai des copains. Mon copain Gérard Palapra, avec qui j'étais à l'école, lui avait commencé à prendre des cours d'acteur et tout ça, et il a eu ce rendez-vous. Pour un casting, comme on disait pas encore à l'époque. Et puis il m'a dit, bah viens, on sait jamais. Et j'y suis allé, et puis ils m'ont pris. Alors voilà, ça c'est ce qu'on appelle du bol.
Plus parce que vous accompagnez un pote que...
Ben oui, parce que j'avais pas rendez-vous, ouais. Moi j'avais pas d'agent et tout ça, donc ça a été un coup de bol.
La même chose avec Popescu.
C'est-à-dire ?
Bah c'est une copine qui allait faire le rôle, et puis elle m'a dit, bah viens, on va aller au cinéma après. Bon, j'attendais en coulisses, et j'entendais la voix de Popescu dans la salle, comme ça, au fond, etc. Je l'avais jamais vu, moi. Alors j'ai passé la tête, et j'ai entendu du « Hep, mademoiselle vous voulez lire, s'il vous plaît ?» Et j'ai fait le truc, on a pleuré avec ma copine après, on s'est dit, on ne peut rien faire, quoi, c'était...
Le destin.
Oui, c'est fou, hein.
Vous, dans ces années 70, vous rencontrez Jean-Louis Barrault, une rencontre qui est arrivée au bon moment, en fait, dans votre vie.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'avais fait le conservatoire, donc j'avais joué avec Popescu, puis comme j'étais très jolie fille, hop, les films s'enchaînaient un peu comme ça. Bien joué.
Je rassure tout le monde, le bisou, vous entendez, c'est Bernard Lecoq, c'est pas nous, on se permettrait pas.
Non, c'est Annie toute seule.
Et puis un jour, j'ai eu un choc, je tournais un film, je sais plus du tout lequel c'est, et puis il y a le producteur, je crois, qui parlait avec le metteur en scène à quelques pas de moi, et qui disait, attends, on a eu du pot quand même, elle peut au moins aligner trois phrases, elle est pas mal, etc. Et j'ai regardé derrière qui il parlait. C'était de moi, dis donc, qui sortait du conservatoire quand même.
Mais vous dites là, que vous étiez dans la dèche.
Ils n'attendent rien de plus, quoi.
Que juste quelqu'un qui aligne quelques phrases, c'est
voilà,
ça.
Voilà, c'est ça. Ils m'ont pris parce que j'étais belle. Ils se disent, ouf, au moins, elle peut jouer un peu la comédie. Et à chaque fois, je disais, vous savez, je fais du théâtre. Rien à foutre. Donc, je me suis dit, il faut que je revienne au théâtre. Absolument, absolument. Parce que je ne prouverai jamais rien là. Et donc, j'ai rencontré Jean-Louis Barrault. C'était formidable.
Un deuxième père.
Oui. Oui, un père. J'en ai eu deux pères de théâtre. J'en ai eu un pinailleur, c'était Jean Mercure, que j'ai rencontré quasi en même temps. Et puis Jean-Louis, qui me lâchait sur scène et qui me disait « t'es ma fille de théâtre. Allez, vas-y. Allez, mal, mais vite. »
C'est ça, j'adore la formule. Mal, mais vite. En 92, donc, le début d'une famille formidable. À ce moment-là, accrochez-vous, Bernard Lecoq. Écoutez.
Bravo, Bernard.
Les cheveux gras. Dans ces années 90,
j'aimerais bien te voir.
J'aurais voulu être un sexe symbole, mais ça s'est pas fait. Alors voilà, donc.
J'aime bien ça s'est pas fait.
Ça s'est pas fait.
Il est pas trop tard.
C'est le bout de la route.
92, vous êtes nommé au César du meilleur acteur dans un second rôle pour l'interprétation de Van Gogh de Maurice Pialat, que l'on a évoqué tout à l'heure. Vous jouez aussi dans la série Une famille formidable, ce qui est un peu un paroxysme, c'est-à-dire qu'on oppose toujours télé et cinéma. Et là, se retrouver à la fois au César et en prime time sur TF1.
Oui, c'était vraiment un coup de bol. Je me disais, il va falloir que ma carrière brillante prenne un autre tour. Et puis, en effet, ces deux affaires-là sont arrivées à peu près en même temps. Le Pialat, ça m'a refilé un petit coup de projecteur, un petit coup de prestige au cinéma. Et puis, le succès et l'amitié qui est venu avec la famille formidable, voilà, ça permet de passer à la radio. Moi, je dis que c'est bien.
En 92, les séries télé étaient quand même vraiment moins bien considérées que maintenant. Donc ça devait créer quand même un gouffre beaucoup plus important que là de le dire sur le papier, une série et puis là.
Oui, enfin à l'époque, je me rendais pas compte, on comptait pas tellement comme ça à l'époque, non. On se disait voilà, on fait des films, on fait la télévision, on savait en effet que si on faisait beaucoup de télévision, forcément ça fermait un petit peu les portes au cinéma, parce qu'au cinéma, les gens, en tout cas les décideurs, doivent penser que si on voit trop les gens à la télévision, ils vont pas venir au cinéma, ce qui est en train de changer totalement, enfin, le phénomène du jardin, le phénomène de tout un tas, enfin de
grand producteur
de Tonkédek et tout ça, maintenant tout ça circule de la télévision au cinéma.
Un grand producteur de cinéma m'a dit, il n'y a aucune raison d'aller payer pour voir quelqu'un que l'on a gratuitement à la maison.
Voilà, sauf qu'aujourd'hui, ça a été totalement démenti par, en tout cas, c'est de jeunes gens, que, par la petite Alexandra Lamy, par un tas d'actrices et d'acteurs qui, aujourd'hui, sont des vedettes de cinéma en ayant commencé à la télévision. Quoi.
Oui, mais en ne retournant pas à la télé.
Bah, ils y retourneront parce qu'il y a aussi à la télévision de quoi faire des choses tout à fait épatantes, en particulier le fait de pouvoir raconter de longues histoires. C'est quand même la spécificité de la télévision.
J'avoue que je suis très, très fan des séries, pas tout, hein. Mais parce que justement, on revient quelque part à un cinéma de papa. On prend le temps, il y a des grandes scènes, il y a moi, des séries que j'ai aimées dernièrement, mais il y a des scènes de 25 minutes, c'est quand même génial, entre deux personnes.
Quelle série, par exemple, vous aimez ?
Oh, j'ai été enthousiasmée par un truc qui est fait par un acteur, un stand-up new-yorkais qui s'appelle Louis C.K.
Louis C.K.
Et qui a fait Horace and Peter. Oui. Horace and Peter, c'est extraordinaire. C'est du théâtre, hein. C'est du théâtre. Il y a ces 4-5 fabuleux acteurs et des guests qui sont des acteurs de théâtre, ça se voit tout de suite, formidables. Et il y a deux décors. Ils ont fait ça avec 3 balles entre eux. Il y a Edie Falco, qui était la femme des Sopranos, qui est absolument géniale. Steve Buscemi, c'est ça, qui était un acteur. Et Louis, et ça raconte, c'est d'une subtilité de narration, de tout.
Pour l'anecdote, lorsque Louis Siguet est venu et s'est produit l'été dernier à l'Olympia, la salle était remplie d'humoristes français qui venaient c'était plus un spectacle, c'était une masterclass.
Il a fait une série aussi qui s'appelle Louis, et qui est excellente.
Oui, ça dépote. Hein. Mais Horace and Pete, c'est profond. Ouf.
Ouais, mais il est très, très, très bon.
Oula. Mais ils font des scènes de 25 minutes.
Il y a un épisode dans ce Horace and Pete, il y a un épisode, c'est une scène à deux entre deux personnages qui dure peut-être même tout l'épisode. Ah
bah, alors justement, l'enchaînement est tout trouvé avec Alexandre Le Train. Merci de venir à ce micro, Alexandre.
Je suis ravi.
Journaliste, avec une semaine de Noël, c'est sympa.
Spécialiste des séries françaises. Vous animez la loi des séries sur la radio numérique Radio VL.
Ouais, tout à fait.
Tous les mercredis de 11 à 12h30, c'est-à-dire pile en face de nous, il va falloir s'arrêter. Comment...
Oh le mafieux.
Il a raison.
Je vais décaler pour vous.
Et on vous a pas invité, en fait, on vous a demandé de venir pour vous menacer.
Pour vous écarter de l'antenne.
Maintenant que c'est fait, vous pouvez repartir. on va pas sortir de grands raisonnements autour des séries, mais quand vous entendez Annie Dupéry dire « Voilà moi ce que j'aime dans les séries, voilà les raisons pour lesquelles je trouve ça plus agréable d'être dans une série que dans un film », est-ce que c'est pour vous la raison du succès des séries, qu'elles soient françaises ou étrangères ?
Ah bah déjà, quand je les entends tous les deux dire ça, moi je suis obligatoirement ravi, parce que il y a eu pendant très longtemps, vous le disiez, un snobisme du monde du cinéma et du théâtre vers la télévision. Il y en a encore, je ne titrerai pas de comédien ou de comédienne, mais il y en a encore qui crachent sur la télévision, de moins en moins. Et il y a une vraie authenticité.
C'est peut-être ceux qui ne sont pas engagés par la télé qui crachent sur la télé. Non.
Alors si, je ne citerai pas de nom, mais j'ai eu une comédienne dans une
série.
Je ne citerai pas de nom, m'a-t-il saigné.
Merci.
Qui dit... Ouais, vous comprenez, moi j'aime bien la télé, c'est sympa, mais c'est un peu fatigant quand même. Donc voilà. Donc
pour le rythme de travail.
Ouais, pour le rythme de travail, c'est trop fatigant, faut travailler pendant 4 mois d'affilée, c'est trop épuisant.
Je crois qu'il y avait un rôle écrasant avec ça.
Mais ça peut s'entendre, ça peut s'entendre.
Non. Ça peut pas s'entendre. Non. Ça peut pas s'entendre. Pourquoi? Parce qu'on a ici de brillants
c'est
comédiens.
C'est pas la mine de scène, hein. C'est pas la mine de scène, le travail.
Non, mais en fait,
télé,
ils jouent depuis 25 ans dans une série, en passant du cinéma à la télévision et au théâtre, et qu'ils le font de manière brillante, parce que c'est aussi ça le succès d'une famille formidable. C'est déjà parce que c'est vachement bien, et qu'ils jouent très très bien. C'est des brillants comédiens. Alors, il y a des passages.
Ça dépend des saisons.
Oui. Ça dépend des saisons, on est d'accord.
Il y a eu des flottements.
Très bien.
On est d'accord.
À moi, c'est la vie, on a été malade. On
un peu moins
mal dirigé. Oh, bah, allez,
c'est tout.
Chacun son métier. Justement, est-ce que pour expliquer le succès d'une série, dire que les comédiens sont bons, j'entends, que il y a aussi les histoires, parce que pour être bon comédien, il faut porter quelque chose, avoir une bonne histoire à raconter.
Bien sûr.
Et une bonne histoire, ça se définit comment ? C'est celle dans laquelle on peut se projeter, dans laquelle on se sent concerné, parce que c'est un rapport avec la vie des téléspectateurs.
Ce qui est fort dans Une famille formidable, c'est que c'est le parfait mélange entre la vie réelle et la vie fantasmée. Les gens peuvent se retrouver parce que les thématiques qui sont abordées, vous l'aviez dit, dès 92, on parlait quand même de couples homosexuels, on parlait de maladies, de sujets qui sont quand même très anxiogènes selon les chaînes de télévision. Et en même temps, on se retrouve dans une famille idéale avec plein de...
Qui sauve.
Ouais, exactement. Et ça se finit toujours bien, en général. Et je trouve que c'est ça qui est formidable, c'est que vous avez une grande famille qui s'est étendue au fil des années, avec une galerie de comédiens qui sont tous plus...
Ça, ça se finit bien en général sur une saison, mais il y a toujours il y a toujours la dernière scène avec... Que va-t-il se passer après les pubs?
C'est ça.
Ça c'est encore plus radical sur le 52 minutes, parce que la découpe est mortelle.
Autrement dit, ils ont su évoluer avec la société.
Ils ont su évoluer avec la société, ils ont su aborder des thématiques comme on le disait, et puis ils ont su aussi utiliser la pop culture. Moi je me souviens d'une saison où on faisait référence à Lost, vous étiez coincé sur une île déserte. Ils ont regardé un petit peu ce qui se passait à droite à gauche, et je crois que à l'heure où on parle,
ils se sont reperdus sur l'île de la Réunion. Donc il y a moins... Ils ont des problèmes de
jetlag. Pas mal d'îles.
On était proche de Sex Avril même à la fin de cette série. Là, quand on pliait un palmier pour envoyer comme catapulté tout l'autre dans les airs, franchement, on était dans des dessins animés.
C'est sûr, c'est sûr. Est-ce qu'il y a beaucoup de séries qui ont une vie aussi longue, 25 ans?
En France, il y en a pas tellement, et aux États-Unis, il y en a pas tellement. En général,
c'est en Angleterre.
Il y a Doctor Who qui dure depuis 60 ans. Dallas, ça a duré que 13 ans, finalement.
Enfin, Dallas, tu l'as vu pendant 30 ans, mais ça n'a duré que 13 ans.
Les feux de l'amour, c'est des rodées.
Alors voilà, il y a le cas des soaps qui sont les feux de l'amour à Mont Gloire.
C'est pas la même catégorie.
C'est pas la même catégorie.
C'est pas écrit de la même manière, et c'est quand même pas joué de la même
manière. C'est mieux quand même.
Alors je pense que ce qui les a sauvés aussi, c'est peut-être qu'ils n'étaient pas là tous les ans. Il n'y a que 3 épisodes par saison. Les auteurs ne sont absolument pas rincés en termes de production, parce que aux États-Unis c'est quand même 22 épisodes par an.
Coronation Street qui est
depuis 50 ans, 60 ans même.
60 ans.
Je crois que c'est depuis le début des années 60.
Vous êtes prêts tous les deux ou pas?
Encore 40 ans. Un peu.
On va retourner encore plus vite.
Il y a une nouvelle forme d'écriture aussi avec Fais pas ci, fais pas ça, qui partait presque d'un rythme à la sitcom, c'est-à-dire des sketchs très rapides et moins sur des séquences longues, jouées moins sur des plans séquences, avec presque des scénettes et des histoires croisées.
On avait dit qu'elle avait inspiré la série Modern Family qui existe aux États-Unis. Alors je pense qu'ils ont un peu piqué le concept et qu'ils l'ont après développé. Mais ensuite, on voit bien, Fais pas ci, fais pas ça.
Inspiré, on dit inspiré.
Inspiré.
Modern Family,
qui est une formidable sitcom. Et d'ailleurs, c'est assez drôle, quand on rencontre l'équipe de Fais pas ci, fais pas ça, ils parlent de famille formidable moderne. Voilà, il y a toujours cette référence à cette série originale qui, franchement, moi, c'est un cas d'école, parce qu'à la télévision française, à part Camping Paradis ou Joséphine Ange Gardien, il n'y a pas d'exemple de série comme ça qui dure sur le temps.
Je crois qu'il y a un vrai...
Il y a plus belle la vie depuis 10 ans.
Et qui marche encore.
On est dans plus la sitcom que dans un feuilleton écrit, une fiction écrite. Parce que déjà le rythme, je ne me rends pas compte.
Un épisode par jour de tournée.
Par jour?
Oui, à peu près.
Oui, oui. Et des épisodes de 20 minutes.
Au purin, comme on dit.
On est sur le modèle des Feux de l'amour ou de Vraiment Gloire et Beauté.
Ouais, c'est ça.
250 épisodes par an.
Est-ce que vous voyez déjà poindre ce qui va nous arriver dans les séries, qu'elles soient encore une fois étrangères ou françaises, dans les années qui viennent? Est-ce qu'il y a une tendance?
Il y a une grande tendance, c'est la mini-série, c'est-à-dire que c'est d'ailleurs comme ça qu'on attire vers la télévision des comédiens de cinéma. C'est des séries événements sur 6 épisodes, on les embarque
comme
dans 10%. Une aventure. Alors 10%, il y a déjà une saison 2, mais par exemple vous avez Emmanuel Seigné et Melville Poupeau qui tournent dans une série pour TF1 qui va être un thriller. Il y a Carole Bouquet qui arrive dans une série policière pour TF1. Donc on a des castings comme ça qui sont assez surprenants, antinomiques avec des chaînes
c'est
comme
TF1. Un grand film. Voilà, c'est comme un film de 6 heures.
Oui, mais il y a quand même le respect de cette notion de rendez-vous et comme disait Nagui, de cliffhanger à la fin des saisons, à la fin des épisodes.
J'ai jamais dit cliffhanger.
Je
ne connais pas ce monsieur.
Il dit très souvent food truck. Cliffhanger, jamais.
Et pour terminer, est-ce que c'est pas aussi les acteurs du cinéma qui viennent piquer le boulot aux acteurs de la télévision? Maintenant, c'est un peu l'inverse.
Bande de salauds.
Tu peux pas dire ça.
C'est vraiment d'excellent.
C'est plus vicieux que ça.
Vous allez loin.
Ils ont craché sur la télévision pendant très longtemps parce que c'était pas un média noble. Et aujourd'hui, ils y viennent pour une simple et bonne raison, c'est que c'est là que ça se passe. Aujourd'hui, on parle que le cinéma français va pas très très bien. Venir à la télévision, d'un seul coup, vous touchez 5,5 millions de téléspectateurs. Avant de faire 5 millions d'entrées au cinéma, il faut quand même sortir une grosse production. Ils y viennent parce que ça marche. Parce qu'il faut manger, parce que ça marche. Et qu'il y a des comédiens qui se refont une santé. Vous parliez de Steve Buscemi tout à l'heure. Il a fait une formidable série avec Martin Scorsese, Boardwalk Empire, et ça lui a complètement relancé sa carrière.
Au-delà, Annie et Bernard, du fait de travailler pour la télévision ou pour le cinéma, l'autre question, c'est de travailler pour la même série. Vous l'avez évoqué en disant est-ce qu'on fait la suite ou pas? Vous êtes posé la question au tout début. Êtes-vous ou pas, sentez-vous prisonnier de la famille formidable? formidable.
Ah non, 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 pas prisonnier. Mais c'est vrai que TF1 ne va pas être content. Mais moi, je déplorais qu'on ne le fasse tous les ans.
Va dire encore des trucs.
Je vais dire encore des trucs. Je trouvais que quand c'était tous les deux ans, et d'une, ça me permettait de faire du théâtre, ce que je ne peux plus faire. Voilà. Bon, moi, c'est ça, ça c'est, disons, mon regret.
La frustration, oui.
Et je trouvais que... moi, je suis toujours optimiste. Je me dis, quand les gens nous ont aimés pendant 25 ans, pourquoi ils ne nous aimeraient pas dans 30, tu vois? Et je trouvais que quand on se faisait oublier un peu et que les gens nous retrouvaient, c'était mieux. Que de les, je me suis dit, ils vont arriver à nous flinguer, en fait.
Dana,
je sais pas,
j'en sais rien. J'ai pas écouté.
Non, non, mais il est plus lâche.
Il est lâche.
Non, je sais pas si ça peut nous flinguer. À vrai dire, ce qui est compliqué, bah oui, puis en plus, c'est ma spécialité. Je vous signale que je suis président du Club des Lâches. Il faut quand même pas arrêter de m'emmerder avec ça.
Et les autres membres, c'est qui?
Bon, bah là, alors il y a des noms, il y a une liste, je vous le dis tout de suite. Mais non, non, mais c'est vrai que le faire tous les ans, le seul vrai problème à Vaudet, c'est que, ça prend quand même beaucoup de temps et que par ailleurs, par exemple Annie qui joue au théâtre et qui aime ça et qui est une grande vedette de théâtre, elle peut moins en faire quoi. Et moi, de temps en temps, je peux pas faire.
C'est bien. Vous venez juste de répéter ce qu'elle vient de dire, Bernard. C'est formidable.
Ça veut dire quoi? J'ai pas écouté ce qu'elle disait.
Vous n'aviez vraiment pas écouté.
Mais je parlais avec mon ami Albert qui a la conversation.
Oui, c'est
et
ça.
Puis elle, bah, je le savais déjà, qu'est-ce qu'elle avait dit, parce qu'elle avait déjà dit sur une autre chaîne.
Oui, mais vous, vous.
Bah oui, alors.
C'est vraiment un vieux coup.
Quoi, mais vous. Quoi, moi.
Rien, ok.
Il va me laisser dormir. C'est le matin, il est tôt, merde.
Alexandre Détraine, merci en tout cas d'être venu, Alexandre, et d'avoir apporté vos connaissances éclairées.
J'ai changé d'horaire.
Sur les séries françaises, et pardon de vous faire tant de mal.
Non, j'ai changé d'horaire.
Daniel Morin, on voit bien que face à la multitude de créations étrangères, il y a dans le patrimoine français des séries qui durent depuis des années. On peut être fier de ce qui se passe avec La Famille Formidable et d'autres séries comme ça.
Oh putain, il est bon! Oh la vache, le salaud! Il est brillant!
Nom de Dieu, mais c'est pas possible. Vous avez un cerveau en or, monsieur Guy. Merci Dieu et merci monsieur Guy de m'accepter à vos côtés. J'ai l'impression de m'élever. Même si aujourd'hui, et tout le monde s'accorde à le dire, à 6 jours de Noël, vous raisonnez comme une dinde. Non. Monsieur Guy, il n'y a aucune raison d'être fier. On s'en fout des séries qui durent. On s'en cogne du patrimoine. On s'en tartine le coquillard de la longévité. Ce qui compte, c'est la nouveauté, la création, l'aventure. Ça, forcément, ça vous parle pas. Je sais que vous êtes un grand nostalgique de Navarro, de Julie Lescaut, que vous pleurez chaque jour la disparition du commissaire Moulin, que parfois vous vous caressez sous la douche en fredonnant la larme à l'œil, la chanson de Belle et Sébastien. Faut que ça change, monsieur Guy, faut que ça change tout ça. En son temps, Joséphine Ange-Gardien a fait un bien fou à la fiction française. En son temps, aujourd'hui, ce serait inacceptable que ce soit toujours diffusé. Qu'est-ce qu'on me dit? C'est toujours diffusé, mais c'est inacceptable. Alors, je comprends. Ah, bien sûr, vous me direz, je vais arrêter de postillonner sur les gens. Vous me direz, oui, Daniel, enfin, merde, c'est quand même gênant ce que tu dis face à nos invités qui viennent pour la 13e saison d'Une Famille Formidable. Oui, je le reconnais volontiers. Mais ça ne tient qu'à eux de faire de ce succès populaire légèrement daté une saga moderne où on trouverait tous les ingrédients des séries contemporaines dont le succès est dû à l'audace et à la créativité. Pourquoi pas imaginer une saison 14 plus actuelle? Ah oui, une saison 14 avec Annie Dupéret qui change de sexe et qui part vivre aux États-Unis sous un faux prétexte pour en réalité tuer le président américain. Elle se ferait gauler par la police secrète du président aussi rouquin que cruel qui la condamnerait à mort. Le jour de l'exécution, en place publique, Bernard Lecoq, qui entre-temps est devenu djihadiste et qui lui en a jamais voulu vraiment d'avoir changé de sexe, arrive en deltaplane pour la sauver. Réussira-t-il? Se fera-t-il gauler? Vous le saurez en regardant la saison 14 d'Une Famille Formidable. Alors, vous voyez, monsieur Guy, le patrimoine n'est valable que s'il apprend à se moderniser. S'il accepte une mue chronique, une fois encore, et à mon grand désespoir, monsieur Guy, vous avez dit...
N'importe quoi.
Merci.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Annie Dupéret et Bernard Lecoq sont nos invités jusqu'à midi et demi. Bienvenue avec Leïla Kadoboudéli.
Bonjour à tous.
Frédéric Sigrist. Daniel Morin.
Bonjour à tous.
Albert Algou.
Bonjour à tous.
Richard Lornard. Bravo. Bonjour. Et nos invités Annie Dupéret et Bernard Lecoq.
Bravo.
Formidable.
avec justement la famille formidable, la 13e saison. Les deux derniers épisodes sont diffusés ce soir sur TF1 après les premiers succès des précédents lundis. Est-ce que d'ailleurs TF1 vous appelle, les producteurs vous appellent, est-ce que vous êtes scotché au résultat ou vous êtes extrêmement détendu? Sincèrement,
non, on est un petit peu énervé, mais on attend qu'ils appellent. Mais là, comme on a
un petit SMS généralement, voilà.
Ouais, les petits textos qui vont.
Mais s'ils n'envoient pas le texto, en général, c'est qu'on est quasiment foutu à la porte. Ce qui n'est pas encore arrivé. Hein,
l'avantage d'aujourd'hui, c'est que le texto, ça sera demain.
Oui, c'est ça. Oui.
Il y a des replays sur HD1. Il faut le préciser. Vous avez raison aussi. Si vous avez.
Généralement, on a une semaine après, on a les vrais, en fait, les vraies audiences.
Les audiences qu'on appelle ça, les audiences consolidées.
Oui, et ça veut dire que les audiences déterminent la potentielle suite de la série.
En France, c'est quand même naturel qu'effectivement...
Peut-être un retour au théâtre.
Parce que j'ai les jetons, moi, je ne veux pas y aller. Je suis lâche, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Et c'est difficile, le théâtre, c'est un vrai travail.
Vous vous rendez compte de la phrase que vous dites?
C'est colossal. C'est colossal.
Non, mais j'ai essayé de le convaincre. Il m'a écouté, il l'a fait.
C'est entre le théâtre, travail. C'est un vrai travail. Et il y a des chapeaux.
Et j'en ai connu des chapeaux.
On a un duo, là.
Je l'ai convaincu un jour d'y aller, il y a été. Et puis il a beaucoup souffert.
J'ai souffert, c'est difficile.
Il est angoissé.
Attendez, qu'est-ce qui est plus dur pour vous, être dans la salle au théâtre ou être sur scène au théâtre?
Sur scène.
Ah, sur scène, oui.
Sur scène.
Ouais.
Parce que c'est ce souvenir du texte, c'est de le faire.
Oui, ça, la peur comme ça d'être sous le regard des gens pendant 2 heures. Je suis un peu comme dans un gars qui serait un peu claustrophobe et l'ascenseur s'arrête entre le 12e et le 13e étage. Quoi.
C'est fou ça.
Oui, c'est un peu.
Après tant d'années d'expérience, vous n'êtes pas.
Ouais. Moi, s'il n'y avait pas la part du gain, j'aurais fait autre chose.
Cet homme est monstrueux.
Oui, c'est pour ça qu'on l'aime.
Pourtant, je vous verrais bien dans un vaudeville.
Oui, il fait tout, il fait tout.
Non, mais c'est extraordinaire.
Et surtout les salauds.
Les salauds, j'allais dire ça.
J'admire le théâtre. Et il y a effectivement à jouer des choses absolument magnifiques, mais c'est vraiment difficile, quoi. C'est vraiment difficile. Et c'est comme ça, c'est très bien.
Alors, restons sur la famille formidable. Annie Dupéré et Bernard Lecoq, vous êtes déjà en train de lire ou pas la 14e saison que vous allez tourner en février 2017. Oui. C'est-à-dire dans un mois et demi.
Non, on est les premiers surpris. Voilà, on a le scénario 2 jours avant, souvent.
En fait, vous ne bossez pas, quoi.
Non, on est à la confiance surtout. C'est-à-dire que Joël, jusqu'au dernier moment, il confine les choses.
Le mec, il y a 2 secondes, il dit qu'il n'aime pas travailler. Il est non, à confiance. On va découvrir
après,
la veille.
Ben voilà, dans la vie, on apprend 5 épisodes, parce qu'on n'est pas des imbéciles non plus. Hein.
Mais vous vous mêlez encore de ce qui va arriver à vos personnages?
Ben, quand on le sait un peu plus tôt, quelquefois on a une pauvre idée, puis on dit, bah tiens, si on disait ça plus tôt que
on
ça.
On ne s'appelle plus beaucoup. Il est bienvenu qu'on rajoute notre patte. Voilà.
D'accord, mais pour rajouter votre patte...
Nul n'est à l'abri d'une bonne idée.
Il faut quand même avoir une vraie plus que base. Enfin, c'est vraiment des choses qui sont très construites. Mais effectivement, au fur et à mesure, ensuite, des situations et du tournage, il arrive parfois qu'on dise des bêtises. Hein, ça arrive qu'on dise
donc
des
vous
bêtises.
Ne savez pas encore s'il y aura des scènes de sorciers, si vous allez partir sur une autre île, si vous allez voyager au bout du monde ou pas. Tout est open. D'accord.
Oui, on sait que ça va être chouette. Quoi.
On va jouer.
Albert Algou, vous aviez des cadeaux pour cette période de fête.
On est à 6 jours de Noël, c'est ça?
C'est ça.
Je me trompe pas?
Non.
Donc très très rapidement, une BD formidable. C'est Fluide Glacial, c'est What the Future de Mo CDM. C'est un jeune auteur, on peut dire c'est un épigone de Gottlieb, tout à fait remarquable. Ah. C'est pour Daniel. Oh. Il n'y en aura pas pour tout le monde, parce que comme je reviendrai. Hein. Pour vous, Bernard, Chaval, vous connaissez l'immense dessinateur. C'est Au Cherche Midi, Chaval, Au Sommet, c'est une anthologie.
J'habite à rue du Cherche Midi, alors.
C'est vrai, c'est fou les hasards.
Ah, c'est ça,
les hasards objectifs,
vous savez lire, et c'est un livre.
C'est formidable.
Pour
vous,
c'est un livre.
Pandora,
déjà, non?
J'en ai déjà. Remarqué.
vous l'offrirez.
Et pour vous, Annie, alors c'est une revue de bande dessinée nouvelle. Pandora, c'est le numéro 2. C'est Casterman qui publie ça. C'est tout à fait remarquable. Ce sont des nouvelles illustrées.
Super.
Et vous verrez, c'est très, très bien. Pandora.
Il y a un chien en couverture.
Il y a un chien. Pandora, c'était le nom, si j'ose dire, de ma chatte précédente.
Annie Dupéré, Bernard Lecoq, la gentillesse incarnée, le talent aussi, sont présents autour de cette table. Heureusement, cela va contraster avec Daniel Morin.
Quel bel enchaînement.
Non, je suis une fan absolue avant qu'ils disent du mal.
Tellement bon. En France, il existe
notre feuilleton.
Il existe un endroit où tout est merveilleux. Un endroit à part, perdu dans le 16e arrondissement de Paris. Une maison ronde, pleine de vie, de joie, mais aussi de douleur, de jalousie, de bassesse et de grandeur. Bref, il s'y passe toujours quelque chose de fort. Quand pour toi, une journée est super, sache que c'est une journée ordinaire. France Inter. Une saga quotidienne avec le colossal Patrick Cohen, le fragile Augustin Trapenard, Nagui le terrible, Laetitia Gaillet, la journaliste sous surveillance psychiatrique, mais aussi Laurence, la directrice, mannequin pour Franck Provost, Mathieu, le grand patron le plus beau du monde, et bien sûr, tous les people qui hantent les couloirs de la radio. Bienvenue dans une journée ordinaire à France Inter. C'est parti. Aujourd'hui, tout est calme à France Inter.
Enfin, en apparence.
Aujourd'hui, en l'honneur de nos invités, toute la grille de France Inter est consacrée à la famille. Laurence, la directrice, fait son topo matinal. Bon, dans 5 jours, c'est Noël, c'est l'esprit de famille. Hein. Sachez que, tout comme vous, ça m'emmerde l'esprit de famille. Mais vous allez faire un effort. N'oubliez pas que parmi nos auditeurs, il y a des gens de droite.
Peu.
Mais il y en a. Des gens pour qui Jingle Bell est un cri de ralliement. Aujourd'hui, vous donnerez donc un esprit de famille à vos émissions. C'est un ordre. Toujours prompt à réagir, Augustin Trapenard, l'homme aux commandes de l'émission culturelle de référence Boomerang, le programme que quand tu crois que c'est fini, ça revient quand même. Augustin frappe fort d'entrée avec comme invité la famille Le Pen, qu'il essaye de réconcilier à l'antenne. Une belle tentative qui fonctionne, puisque jusqu'à la fin de l'émission, c'est un Jean-Marie Le Pen ému, et c'est un Jean-Marie Le Pen, l'œil gauche en larmes et une Marine la morvonnée qu'on trouve enlacée dans le studio sous le regard attendri d'un Augustin qui pour l'occasion leur chante « O Tannenbaum, wie grüßt deine Blätter ». Pendant ce temps, Laure Adler prépare son émission du soir, l'heure bleue. Pour l'occasion, elle invite une famille du nord de la France. Le père, Jackie, la mère, Jaquette, leurs 14 enfants, leurs 39 petits-enfants, qui ont pour la plupart Jackie comme grand-père et père à la fois. L'ambiance est chaleureuse et, ma foi, le fait que certains des petits-enfants aient des bras en trop et des yeux en moins pour raison de consanguinité n'empêche pas de faire la fête. Nagui, pour son émission, la bande originale, a fait venir Annie Dupéré et Bernard Lecoq, les parents de la série Une famille formidable. L'émission commence bien, mais après avoir demandé aux invités si pour des besoins de la série, ils couchaient ensemble de temps en temps, l'ambiance se gâte. Les invités, Bernard et Annie, ont répondu que non. Mais Nagui n'est pas satisfait de la réponse. Il est persuadé que les invités mentent et il les engueule. Mais vous vous foutez de moi ! Tout le monde couche avec ses collègues, tout le monde ! Enfin merde, vous n'allez pas me dire que je suis le seul à avoir une conscience professionnelle en imposant à mes collaborateurs d'avoir des rapports intimes avec moi pour une plus grande cohérence de l'équipe et un esprit de bande plus convivial. Comme un silence gêné s'installe dans le studio, l'émission a beaucoup de mal à reprendre. Heureusement, Annie et Bernard sont de très grands professionnels. Ils sentent le malaise et finissent par dire à Nagui que oui, effectivement, pour les besoins de la série, ils couchent de temps en temps avec les maquilleuses et les costumières. Nagui arrête de faire la gueule et la bonne humeur revient en studio. Ah mon Dieu, quelle radio! Quelle radio d'excellence! Pas étonnant que les chiffres d'audience soient aussi élevés. Hein. Encore une fois, le challenge de la journée avec thème imposé a été un succès. Bref, aujourd'hui encore à Radio France, les animateurs ont relevé le défi. Réconciliation en direct, dédiabolisation de l'inceste, petit secret de tournage. Le programme fut aussi riche que varié. C'est incroyable et pourtant tout ça, c'est juste une journée ordinaire à France Inter.
Bravo Daniel
Laurent. Oui.
La bande originale.
Tout est formidable aujourd'hui. Formidable aussi comme la famille de Denis Dupéré et Bernard Legault ce soir sur TF1. Et formidable comme le brouillon de culture maintenant de Leïla Kadour-Boudadi.
Annie, Bernard, je vous sors de la promo. Un petit bol d'air, c'est notre brouillon de culture, histoire d'apprendre à mieux vous connaître. On commence par un son pour vous, Bernard.
On attend les cachouettes pour les señoritas.
Hombre, un ligón. Ah. Usted se ha ido con todo el equipo porque a mí me encanta la tónica y a lo mejor me tomo hasta 6.
Bueno, mujer, no te pongas así. Si te empeñas, por mí fenomenal. ¿Y tú?
Et tout. C'est vous, Bernard Lecoq, oui. Mal doublé hein, dans une pub espagnole pour Schweppes. C'était en 80.
Ben non, mais plus que ça, parce que j'ai été El Hombre à Tony Schweppes en Espagne pendant 12 ou 13 ans. Et j'avoue que j'ai été très célèbre. Enfin,
ça vous a rendu très, très populaire en Espagne, ah oui, autant que Jean-Claude Dreyfus en France quand il était Monsieur Marie.
Ah oui, absolument. Ou que la mère Denis, ouais, j'étais. Et la Méricorée, on va dire. Et la Méricorée. Mais c'est fou.
Je ne ferais pas ça tous les jours.
Oh.
Et comment vous êtes tombé là-dessus, là-dedans?
Ils ont fait un casting un peu partout en Italie, partout, et j'ai remporté la timbale, donc j'étais content, quoi. Et allez, je vais le dire. Ah. Ils ont fait le casting, puis après ils ont montré les films, et j'ai fait l'unanimité sur les filles.
Oh, bien ça, c'est bon,
oui.
Ça.
Ah,
dis donc.
Ben voilà.
C'est moi qui l'ai gagné.
Voilà, c'était juste pour vous faire un petit clin d'œil pour cette publicité.
Non, ça a été 12 ans. J'ai fait 45 spots, alors ça y allait, hein, c'était marrant.
Et bref, vous auriez envie de continuer éventuellement à l'étranger?
Ah bah, ils m'ont viré après. Et après, ils m'ont remplacé par le. Comment il s'appelle?
Roger Moore.
Le docteur. Non, oui, genre comme ça, oui. Le docteur merveilleux dans les feuilles.
Chez Sciences?
Non, oui, docteur House, oui.
Ah, docteur House,
quand j'ai été lu. Bah,
non, mais voilà. Tu ferais bien Stana maintenant.
C'est quoi?
Les escaliers.
Ou les baignoires à porte?
C'est dégueulasse.
Ou les escaliers à porte, vraiment.
Moi qui disais que. Si on continue encore 10 ans, on pourra pousser directement nos chaises roulantes comme ça pour
la
faire travailler.
La vanne signée Annie Dupéré. Quoi. Parfait.
Eh bien, on poursuit avec vous, Annie, dans une autre tonalité.
Annie, maman, elle me dit que j'ai les mêmes droits, les mêmes devoirs que ma petite sœur.
Exactement. Toi et ta sœur, vous avez la chance de vivre dans un pays qui respecte plutôt cette égalité.
C'est pas partout comme ça.
Dans presque tous les pays du monde, les filles ont moins de droits que les garçons. Et ça commence dès l'enfance. Il y a certaines régions où elles sont juste bonnes à faire le ménage, et encore.
Elles vont même pas à l'école?
Même pas. Et parfois même, on le leur interdit. Et malheureusement, comme ça, elles deviennent très vulnérables face à la violence, à l'injustice.
Il y a des pays où c'est vraiment pas facile d'être une fille.
Et pourtant, la scolarisation des filles est non seulement juste, mais elle a un effet positif pour tout le monde.
Voilà, c'est un extrait du programme Qui m'aime m'écoute pour SOS ouais. Village d'enfants. Et j'ai choisi le passage sur l'égalité entre les filles et les garçons.
Car
c'est pas inutile de le rappeler. Vous non. êtes marraine de cette association.
Oui, depuis des années. Depuis le même temps d'ailleurs que les familles. Tout ça est arrivé en même temps. Après que j'ai écrit le Voile Noir, le livre que j'avais écrit à propos de la mort de mes parents, et où ces gens-là n'avaient pas de marraine encore, c'était pas encore la mode comme ça d'avoir quelqu'un de connu qui parraine un petit peu une association, et ils avaient lu que j'avais été effectivement séparée de ma petite sœur après la mort des parents, et que c'était, je disais, c'était vraiment une catastrophe, quoi. Et donc ils m'ont demandé, eux, la vocation des SOS Village étant de réunir les fratries en difficulté, de surtout jamais séparer les frères et sœurs. Donc j'ai trouvé ça absolument épatant. Ils font un boulot magnifique. C'est beaucoup moins des orphelins maintenant que des enfants en difficulté qui vont être placés par la DAS. Et quand il y a vraiment 3-4 enfants, c'est très très difficile de trouver une famille d'accueil pour les 4. Les villages font ça. Voilà. C'est absolument remarquable.
Et bien voilà, on voulait parler un petit peu de cet engagement SOS Village d'enfants.
Allez-y, c'est Noël.
SOSVE.org. Il faut penser aux autres.
Et je finis avec un petit cadeau. Ben, vous êtes gâtés aujourd'hui après la petite série d'Albert. Pour vous.
Deux livres, waouh.
Pour vous, Annie.
Ça fait un trop pour Bernard Lecoq.
Je suis complètement paumé là. Comment je vais le prendre?
Pour Annie, c'est le dernier bouquin de François Morel qui s'appelle Me.
Oh oui.
Vous connaissez peut-être. Peut-être l'histoire.
Je connais pas encore le
c'est l'histoire d'un adolescent qui est fils unique à Rochebrune et qui va se transformer en vache laitière de 800 kilos qui s'appelle Blanchette. Et donc tout d'un coup, c'est les réflexions de cette vache, ses ruminations sur sa nouvelle condition. C'est un texte toujours avec la patte de François Morel, à la fois loufoque, drôle et poétique.
Son concert, c'est super.
Voilà, ça c'est pour vous. C'est chez Folio, Folio Édition.
D'accord.
Et pour vous, Bernard, c'est un bouquin qui me plaît beaucoup. C'est Winston Churchill de Catherine Herend Sherman, qui est aux biographies gourmandes chez Payot. Comment voir la vie de Churchill en parallèle avec tout ce qu'il mangeait, tout ce qu'il consommait, avec tous les grands personnages historiques qui fumaient. Il se retrouve
sans faire de sport.
Voilà.
Sans faire de sport.
Par exemple, il se retrouve à table avec Staline et avec Roosevelt. Staline, lui, met plutôt de l'eau plutôt que de boire de la vodka à table. Roosevelt essaie de temporiser. Churchill, il est habitué, il est entraîné, il continue à picoler. Voilà, et ça c'est pour vous, et c'est un super bouquin avec de très belles anecdotes.
Mais je trouve que ça vous va bien, parce que vous avez un côté très, très british.
Ah ouais ? Sans blague. Ça me ferait mal au sein, mon petit gars.
Ça c'est fait. Cette glace.
par inadvertance.
Le vermicrale facilement.
Voici Weezer avec Island in the Sun. Nos invités sont Annie Dupéré et Bernard Lecoq pour parler de la famille formidable qui passe ce soir sur TF1. À l'instant avec Island in the Sun sur France Inter, moi j'adore. Sur France Inter, ce sont Annie Dupéré et Bernard Lecoq qui sont nos invités. La cascade de questions pour vous, des questions courtes avec des réponses courtes. C'est parti. Leïla.
Bernard, votre occupation préférée quand vous ne travaillez pas ?
Eh bien, je lis quelques pages de Carl Gustav Jung et puis après je vais faire du sport pour me détendre.
Quel genre de sport ?
Bah, je vais courir au bois de Boulogne.
Moi aussi.
Les choses comme ça.
Après les filles ?
Non. Oui, quoi ?
Rien. Albert.
C'est des garçons.
Alors, Antoine Duléry, avec qui vous avez... Antoine Duléry, avec qui vous avez tourné, nous a dit que vous étiez un vrai salaud.
Ah oui ?
On a du mal à le croire.
Ah si ?
Et Annie approuve.
C'est court, là, Antoine Duléry lui-même est un beau salaud.
Ah, c'est une ordure épouvantable.
C'est important de le rappeler.
Ça, c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité.
Frédéric Sigrist.
Après 24 ans avec Bernard Lecoq, Annie, vous n'avez jamais eu envie d'aller voir ailleurs ?
Mais je l'ai fait.
Moi ! Leïla.
Bernard, réalisateur qui vous fait rêver en ce moment ?
Comment qu'il s'appelle celui-là ?
Alors, un nom de film.
Vous n'aurez pas le rôle. Comment qu'il s'appelle celui-là ?
Non, mais qu'a fait Crotte de Vic, je ne me rappelle plus. Non, mais si.
Crotte de Vic, c'est un bon film, ça.
Ridley Scott, j'aimerais bien tourner.
Ridley Scott.
Ridley Scott, je suis fan de Ridley Scott. Ouais.
Tourner en anglais.
D'accord.
Et travailler. Donc,
laisse tomber, d'accord. Non, je vais rester à la maison.
Albert Legault.
Annie, la peinture, vous y a donné toujours ?
Rarement, ça me prend par crise comme ça. Alors, comme je, pour éviter d'être déçu, je copie, je fais des matisses, j'en donne aux amis.
C'est vrai, des fautes. Et ça ressemble vraiment, Bernard, vous qui avez
vu
les
toits. Oui, j'en ai fait. Franchement, j'ai vu les originaux. Je suis
tout prêt. Un peu faussaire.
Duffy, vraiment, ils sont bien.
Mais peu de gens le savent, mais elle a une toile qui est à Orsay.
Puis c'est.
Faut pas le dire, non. Non, déconnez pas.
Le post-impressionnisme, c'est épatant, il n'y a qu'une couche.
Daniel Morin.
Annie et Bernard, vous regardez quoi à la télé?
Moi, je suis très série, j'avoue. Je suis très, très. J'aime beaucoup les séries.
Game of Thrones. Comme tout le monde. Ah, et puis, voilà, House of Cards de ces derniers temps, oui, parce que je les avais achetés.
Je verrais bien voir Downton Abbey.
Oui. Happy Valley.
Je conseille la première saison de Westworld.
Oui, il paraît que c'est épatant.
Qui est incroyable.
Mais j'attends que ça sorte en DVD. J'aime
pas. Moi, il faut que j'aime les gens. Il faut que j'aime les personnages.
Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Désolé pour les fans de Bernard Lecoq et Annie Dupéret qui ont découvert qu'ils n'avaient que très, 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 très peu de respect pour les téléspectateurs, je les cite, on tourne mal mais vite, on aime bien bâcler. Je suis encore sous le choc, je vous comprends. Désolé pour tous les propriétaires de food truck qui ont été dévastés par le traitement ignoble, l'acharnement de Nagui contre cette noble profession. Et pourtant c'est tellement pratique. Enfin, désolé pour les chats qui nous écoutent et qui se sont reconnus dans la catégorie chat très con d'Annie Dupéret. Et encore, vous en tirez bien à la pause. Elle nous a parlé de chien gros connard et de canari fils de pute.
Alors demain, nous parlerons pas de famille, mais pas loin. Papa et garçon, père et fils, c'est le sujet. Demain avec Jacques Gamblin qui sera notre invité. Merci. Magnifique, oui.
Il
est bon, lui. Vous êtes pas mal non plus, Bernard. Merci à Annie Dupéret. Merci Bernard Lecoq d'être venu ce soir sur TF1. Et à demain, et on écoute et on suit avec attention les carnets de campagne de Philippe Bertrand. Bonne journée sur France Inter.
Merci Nagui, merci la bande. À demain.